Donc en fait, je vais partir d'une question très très générale qui se pose aux sociologues, mais aussi je pense que c'est une question qui n'est pas étrangère aux historiens, aux géographes. Comment objectiver le positionnement social des agriculteurs, alors donc quand on est sociologue, dans la France contemporaine? J'ai bien conscience, en démarrant par cette question, de soulever là un problème à la fois pas récent du tout, un problème ancien et un problème compliqué. Alors un problème ancien, on pourrait repartir de la question formulée par Marx dans le 18 Brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte. La paysannerie est-elle une classe ou est-elle un groupe dissocié traversé par les clivages de la société globale? Bon, il me semble que cette question mérite encore peut encore être posée, sans doute sous des formulations un peu différentes. Ou bien, je ne suis pas historienne, mais j'ai lu quelques travaux de Marc Bloch où il interrogeait le vocabulaire du paysan, et il dit: ce serait une erreur grave de parler du paysan avec un grand P. En fait, la société paysanne comporte des classes sociales très distinctes, cela depuis que nous commençons à saisir son histoire. Dans le même village, des types différents, répondant à des conditions de vie différentes, coexistent fréquemment. Donc c'est ce type d'interrogation-là que je vais poser aujourd'hui. Alors plus récemment, dans la revue Actes de la recherche en sciences sociales, Claude Grignon renouvelait ce type de questionnement dans un article célèbre, Le paysan inclassable. Peut-être je vous cite un petit bout de cet article. Les jeunes agriculteurs, les nouveaux paysans qui ont su se lancer à temps dans l'élevage industriel seraient des bourgeois, s'ils ne vivaient à la fois comme des bourgeois et comme des ouvriers agricoles ou même comme des sous-prolétaires. Ils participent à des séminaires, à des sessions de formation, manient des idées comme s'ils étaient des cadres ou des managers, mais ils n'encadrent, au moins pour la production, qu'eux-mêmes et leur famille. Ils font de la gestion et de la prospective, manient de l'argent comme des chefs d'entreprise, mais se débrouillent, au moins tant que durent les débuts difficiles, font tous les métiers, de la soudure à la comptabilité après leur journée de cultivateur, font du travail au noir légal, terrassent comme un manœuvre, construisent eux-mêmes les nouveaux bâtiments, passent des bottes et du bleu du valet de ferme à la blouse du technicien ou au complet du responsable. Bon. Voilà, donc le paysan inclassable. Donc ce que je vais essayer aujourd'hui, c'est d'interroger ça pour la période toute récente. Est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on peut, quels sont les outils qu'on a en sciences sociales pour décrire le positionnement social des agriculteurs? Alors maintenant, donc voilà, c'est un problème ancien, c'est un problème compliqué. Et je vais peut-être donner quelques indications du fait que c'est un problème compliqué. C'est un problème compliqué parce que, donc ça c'est ce que dit Claude Grignon, parce qu'il y a une ambiguïté du statut des propriétaires exploitants dans les rapports de production, si on veut être marxiste. Ils sont propriétaires de leurs moyens de production et en même temps, comme le dit Claude Grignon, ils ne s'exploitent qu'eux-mêmes. Donc, ils dépendent, ils ne s'exploitent qu'eux-mêmes et ils sont pris dans des rapports économiques compliqués. Ils dépendent de l'industrie agroalimentaire. Ils dépendent aussi de l'État. Ils sont même très encadrés par l'État. Donc, il me semble que là, c'est pas spécifique finalement aux agriculteurs. Il y a des travaux en sociologie, par exemple, de Bernard Zarka sur les artisans. Qui souligne le même type de paradoxe, le fait que les artisans sont à la fois très indépendants, ils revendiquent d'ailleurs leur indépendance, être son propre patron, et en même temps très dépendants de contraintes économiques plus vastes. Bon, voilà une première raison de pourquoi c'est compliqué. Une deuxième raison, parce que il y a une porosité entre l'indépendance professionnelle et le salariat. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît assez bien en agriculture. C'est ce qu'on a appelé la pluriactivité. Le fait que pour un certain nombre d'agriculteurs, il y a une frontière poreuse entre la condition ouvrière et la petite propriété indépendante. Alors ça serait en bas de la hiérarchie sociale. Mais je sais que, par exemple, de grands céréaliers en Beauce ou en... Il se trouve que la semaine dernière, j'étais à Dijon, dans le Châtillonnais. Il y a de grands céréaliers qui sont une partie de l'année aussi agents immobiliers, entrepreneurs de travaux agricoles ou de machines agricoles, enfin, qui ont aussi une activité salariée. Donc, l'indépendance ne résume pas tout. Enfin, pourquoi est-ce que c'est compliqué? Parce qu'il y a une diversité des situations socio-économiques une variété des styles de vie, une hétérogénéité sociale des agriculteurs en France aujourd'hui. Alors c'est assez... Je pense que ça fait partie du sens commun que de considérer que je vais toujours prendre les céréaliers, un céréalier en Beauce, c'est différent socialement d'un éleveur de brebis en Lozère ou en Aveyron. Bon, donc ça c'est une première chose, c'est-à-dire que selon les régions et selon les types de production, on va avoir des positionnements sociaux différents. Ça c'est assez intuitif. Ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est que y compris dans une même région et pour un même type de production, on a une hétérogénéité sociale qui est très forte. Donc c'est ce que je vais vous raconter au sujet de Cognac. Donc du coup, si on se déplace maintenant vers les outils des sciences sociales pour saisir les positions sociales, eh bien on se retrouve assez coincé. Alors l'outil phare du sociologue, c'est les catégories socio-professionnelles, donc la nomenclature des PCS, qui a été forgée par l'INSEE, d'abord dans une première mouture dans les années 50, puis elle a été refondue en 1982, refonte qui d'ailleurs concernait les agriculteurs, puisque c'est à partir de 1982 que les ouvriers agricoles sont passés dans la catégorie ouvriers. Je ne sais pas si vous êtes familier de la nomenclature des PCS, mais les agriculteurs, donc non ouvriers agricoles, se trouvent dans une catégorie qui est la catégorie numéro 1, répartie en trois sous-catégories, petit, moyen, gros, qui dépend de la taille économique de l'exploitation avec un système d'équivalent blé pour les classer. Alors ce qui est intéressant, c'est que donc cette nomenclature est extrêmement frustre en fait pour classer les agriculteurs. Ce qui est intéressant également, c'est qu'elle les sépare. Elle sépare les agriculteurs des autres catégories socio-professionnelles, à la fois indépendants, puisque les artisans, les commerçants, les chefs d'entreprise se trouvent dans la catégorie 2, et elle les sépare aussi des autres groupes sociaux, socio-professionnels salariés qui sont dans les autres catégories. Et du coup, il n'y a presque aucune comparaison possible entre ces différentes catégories socio-professionnelles. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que si on regarde comment a été construite cette nomenclature des PCS en 1982, c'est qu'il y a eu une énorme résistance des agriculteurs, alors plus exactement des représentants syndicaux des agriculteurs, qui ne voulaient pas qu'une nomenclature socio-professionnelle montre de la différenciation interne parmi les agriculteurs. En fait, ils tenaient très fort à leur idéologie de l'unité paysanne. Et il y a eu de très très fortes résistances dont rendent compte les concepteurs de cette nomenclature à cette période-là. Donc en gros, c'est voilà, les PCS c'est frustre et en même temps ça a déjà été un effort considérable pour en arriver là. Deuxième outil dont on pourrait se servir pour positionner les agriculteurs et qui pose de gros problèmes, ce sont les revenus. Alors, on en a parlé un petit peu au déjeuner, mais les revenus ne sont pas du tout un bon indicateur de niveau de vie des agriculteurs. Alors pourquoi ? Parce que le revenu mensuel n'a aucun sens dans la plupart des productions. Ça peut être du sens pour la production laitière, puisqu'il y a une paye mensuelle du lait, mais en céréaliculture, en viticulture, etc., la viande, le revenu mensuel, il y a une variabilité des résultats d'un mois à l'autre, voire d'une année sur l'autre, qui fait que la notion de revenu mensuel n'a aucun sens. Ensuite, les montants déclarés par les agriculteurs dans leurs déclarations de revenus, donc je pense notamment à leurs déclarations fiscales, ne sont pas contrôlés par un tiers. Il n'y a pas de fiche de paye contrôlée par un tiers qui peut dire le revenu ce mois-ci ou même cette année-ci est de temps. Cela repose sur la comptabilité, sur une comptabilité d'entreprise qui revêtent même parfois un caractère forfaitaire. Donc il y a une partie des agriculteurs, les plus petits, qui déclarent leurs revenus à l'administration fiscale au forfait. Donc là, on a un forfait qui n'a absolument rien à voir avec la réalité de leurs revenus. Et puis, un autre souci que posent les revenus des agriculteurs, c'est que, comme ils sont indépendants, enfin une partie d'entre eux, les revenus d'activité des indépendants superposent des revenus du travail, des revenus du capital et sont difficilement individualisables. les structures juridiques d'organisation de l'activité agricole sont de plus en plus complexes, avec des montages, par exemple, de GFA pour la propriété de la terre. Il y a l'exploitation qui va assurer la partie productive. On peut avoir affaire à des empilements de sociétés avec des associés différents, et donc arriver à découper des revenus individualisés là-dedans, ça n'a rien d'évident. Et puis, les agriculteurs réinvestissent des bénéfices dans leur activité, dans leur entreprise, ce qui peut amener à sous-estimer la rentabilité de l'entreprise. Donc on pourrait se dire, comme les revenus, ça n'a aucun sens et que ce sont des entreprises, transformons-nous en comptables et investissons dans une approche comptable pour saisir les positionnements socio-économiques des agriculteurs. Alors là encore, on en parlait un tout petit peu à midi, le problème de cette approche comptable. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aller regarder les comptes de résultats, aller regarder l'excédent brut d'exploitation. Alors c'est faisable, hein. On peut travailler avec des centres de gestion, on peut demander aux agriculteurs, ils donnent volontiers tous les documents comptables de leur entreprise. Ça a un intérêt, donc c'est faisable, ça a un intérêt, c'est que ça permet de mesurer aussi l'endettement de ces entreprises agricoles, ce qui peut être utile, et vous verrez que c'est, on en reparlera. Et en même temps, c'est extrêmement frustrant. Parce que finalement, à travers ces comptes d'exploitation, qu'est-ce qu'on perçoit bien plus la logique comptable et fiscale qui consiste à répartir les recettes d'une année sur l'autre pour payer le moins d'impôts possible ou pour obtenir les subventions une année donnée. En tout cas, on a toute une logique comptable et fiscale qui a du sens. On va amortir son matériel rapidement ou au contraire plus lentement, mais en revanche ça nous dit pas grand chose sur le niveau de vie ou le positionnement social de ces agriculteurs. Voilà, donc ça c'est là j'ai essayé de vous montrer en quoi c'était compliqué. Donc moi je vais aujourd'hui vous proposer une autre voie pour avancer sur cette question du positionnement social des agriculteurs, qui passerait par les patrimoines. Alors pourquoi ? Parce que les agriculteurs sont des groupes sociaux fondés sur la possession et la transmission d'un capital économique à usage professionnel. Et alors, ce capital économique à usage professionnel, on peut en faire la description quand on travaille, que ce soit si on travaille sur les agriculteurs en général ou sur une région particulière et un type de production particulier, y compris la manière de se situer dans l'espace local va reposer sur des caractéristiques de l'exploitation, sa taille, le mode de faire valoir. Sa situation, dans la viticulture par exemple, ça a beaucoup de sens, le mode de production, de transformation, voire le type de commercialisation du produit. Mais moi ce que je vais vous proposer aujourd'hui, je vais essayer de vous défendre l'idée que ça ne suffit pas et qu'il faut aller plus loin et que au-delà de ce patrimoine à usage professionnel, si on veut situer les agriculteurs socialement, il faut appréhender un patrimoine familial, un patrimoine économique, puis j'irai même peut-être un peu au-delà, mais aujourd'hui je parlerai surtout du patrimoine économique familial plus large. Donc il sera question aussi dans cet exposé de biens immobiliers, de biens financiers. J'y reviendrai. Alors, maintenant d'où je parle, alors ça a été dit un tout petit peu, j'ai fait une thèse donc de sociologie sur les entreprises viticoles de la région de Cognac. Je reviendrai dans un instant sur la manière dont j'ai travaillé. Le titre du livre, c'est « De génération en génération » parce que l'objet que je me suis fixé n'est pas celui que je viens de présenter ici, qui est spécialement pour vous aujourd'hui, mais c'était qu'un jeune viticulteur reprend l'entreprise de ses parents. Qu'est-ce que c'est dans la société française contemporaine? Qu'est-ce que ça signifie et comment est-ce qu'on reprend une entreprise familiale? Alors, deux mots sur les exploitations de cognac, quand même, pour que vous voyez de quoi je parle. Il y a 5000 exploitations à cognac qui produisent du vin blanc, qui ensuite est transformé en cognac. Donc, le cognac, c'est du vin qui est ensuite distillé. Et stocké plus ou moins longtemps, et c'est ça qui devient du cognac. C'est une viticulture mécanisée avec des rendements élevés et des excédents contrôlés et subventionnés par l'Union européenne. Bon, j'ai pas besoin d'insister beaucoup plus. La vinification n'est pas l'étape importante dans la production du cognac, c'est la distillation qui est l'étape la plus valorisée et qui rapporte le plus de valeur ajoutée. Le marché du cognac, et c'est très important, est un marché d'exportation. Plus de 90% de la production de cognac est exportée et c'est un marché qui est contrôlé par des grands groupes multinationaux du luxe, des vins et des spiritueux. Donc vous avez les grandes maisons de cognac, la NC Martel, Courvoisier, Rémy Martin. NC, c'est le H de LVMH. Martel appartient au groupe Pernod Ricard. Courvoisier, ces dernières années, est passé de groupe en groupe et il a échoué chez un fonds de pension américain. Et Rémy Martin, c'est le groupe Rémy Cointreau. Donc ce sont de très grandes entreprises, ce sont des groupes mondiaux qui gèrent plusieurs marques. Et ces quatre marques de cognac, NC, Martel, Courvoisier et Rémy Martin, représentent 70% des ventes mondiales de cognac. Donc ça veut dire qu'elles tiennent ces quatre grandes maisons, comme on les appelle localement. Tout ce qui est entre guillemets, en fait, c'est ce qu'on appelle, nous les ethnographes, les termes indigènes, les termes vernaculaires, je ne sais pas, vous diriez ça peut-être en histoire. Voilà, ce sont les mots des gens. Donc les quatre grandes maisons tiennent le marché du cognac. La vente directe est très, 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 très petite et les coopératives inexistantes. Une petite carte de la région délimitée cognac. Et je ne sais pas si vous voyez bien les petits points, mais les petits points représentent les exploitations où j'ai fait mon enquête. Donc surtout en Charente, un petit peu en Charente-Maritime. Et comme vous le voyez, surtout au cœur de la région délimitée cognac. En fait, plus on s'éloigne de cognac, plus la place des vignes se diminue et plus les exploitations sont des exploitations en polyculture qui reposent sur autre chose que de la vigne. Céréales ou élevage. Alors, maintenant, l'enquête. Ça a son importance que je vous explique la manière dont j'ai travaillé. Donc, j'ai fait une enquête de terrain de longue durée, 1997-2005. J'ai commencé pendant ma maîtrise, j'ai continué en DEA et j'ai fait ma thèse là-bas sur les jeunes viticulteurs et leurs familles. Puisque, comme je vous le disais, mon angle d'attaque, c'était qu'est-ce qui fait que des jeunes reprennent une entreprise familiale. Cette enquête de terrain de longue durée, elle repose sur les méthodes classiques de l'ethnographie, c'est-à-dire faire feu de tout bois. Plus sérieusement, ça signifie une présence longue sur le terrain. J'ai habité une partie de cette période, je vivais en Charente. J'étais en couple avec un viticulteur de cognac. Et c'est à partir de la famille de mon compagnon que j'ai démarré mon enquête par un réseau d'interconnaissances. Donc ça, c'est des techniques vraiment classiques de l'ethnographie, c'est-à-dire réseau d'interconnaissances proches. Et puis, par boule de neige, j'ai élargi mon réseau d'interconnaissances et j'ai enquêté au total sur 35 familles exploitantes. Alors 35, c'est rien, c'est très petit. Sauf que j'ai choisi de faire des monographies de famille. C'est-à-dire qu'au lieu de poser ma question « pourquoi est-ce qu'un jeune viticulteur reprend une exploitation ?» au lieu d'aller voir seulement le jeune viticulteur, je suis allée voir, autant que faire se peut, plusieurs personnes dans l'exploitation familiale. Donc le jeune viticulteur, sa compagne, ses parents, ses grands-parents, ses frères et sœurs, etc. Et ça c'est un choix extrêmement coûteux en termes méthodologiques parce que ça multiplie les points d'entrée sur une même exploitation. Mais je pense que c'était extrêmement important. J'espère que j'arriverai à vous convaincre de l'intérêt de cette méthode d'enquête parce que ça veut dire que sur une même situation économique et familiale, j'avais toujours plusieurs points de vue plusieurs points de vue. Et en plus, comme je suis restée longtemps, plusieurs points de vue dans la durée. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes que j'ai interviewées, donc sous la forme d'entretiens enregistrés, à 3-4 reprises entre 1997 et 2005. Et c'est intéressant parce que le récit qu'on fait de son installation, de sa reprise de l'entreprise familiale, du point de vue des parents ou du point de vue des enfants, ne va pas être forcément le même au fur et à mesure où cette reprise a lieu. La méthode ethnographique, ce n'est pas seulement des entretiens enregistrés ponctuels, c'est aussi de l'observation. Une inscription longue sur le terrain qui fait qu'au bout d'un moment, en tant que voisin, ami, donc dans mon cas compagne d'exploitante, j'ai été invitée à des fêtes, des apéritifs, des dîners, des événements familiaux, baptême, mariage, auxquels j'ai assisté et qui faisaient partie aussi de mon matériau de recherche. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui distingue une occasion amicale d'une occasion amicale qui est aussi du terrain? C'est que je rédigeais un journal de terrain systématiquement pendant toute cette période. Observation et entretien, ça c'est les deux principales méthodes, plus archives. J'ai essayé de récupérer autant que je pouvais tous les documents qui avait trait à la reprise de l'entreprise familiale. Alors ça va de prospectus commerciaux pour ceux qui faisaient de la vente directe à des installations prévisionnelles, études prévisionnelles d'installation pour les jeunes viticulteurs en cours d'installation, c'est-à-dire tous les documents comptables, enfin toute la documentation qui avait trait à leur installation. Et en plus de ça, j'ai réalisé un cadrage statistique, puisque quand on travaille sur 35 exploitations parmi 5000, j'espère que ce que je vais raconter a aussi un intérêt un peu plus large que Cognac, c'est très important de situer ce que j'observais dans un cadre plus général. Donc j'ai réalisé un cadrage statistique, là encore, en utilisant tout ce que je pouvais, le recensement agricole, les statistiques produites par l'interprofession du cognac, et puis aussi, donc c'est de cela dont je vais parler aujourd'hui, l'enquête patrimoine 2003-2004 de l'INSEE sur laquelle j'ai travaillé. J'y reviendrai. Alors, ce que je vais essayer dans une première partie de vous montrer pourquoi est-ce qu'il faut s'intéresser au patrimoine familial et pas seulement au patrimoine productif si on veut comprendre quelque chose au positionnement social des exploitations agricoles. En gros, ce à quoi je voudrais arriver, j'ai deux diapos pour arriver à ça, c'est le fait que ça a un intérêt de travailler sur des entreprises familiales ou exploitations familiales, en tout cas, d'associer famille à exploitation quand on travaille sur l'agriculture aujourd'hui. Je me suis rendu compte que ça n'allait absolument pas de soi, puisqu'il y a tout un tas de gens qui disent que la famille, c'est fini dans l'agriculture et que désormais, les exploitations agricoles sont des entreprises comme les autres et que du coup, ça n'a aucun... Enfin, il faut du coup les traiter comme des entreprises comme les autres et les dissocier de la famille. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc voilà, il y a eu des transformations de l'agriculture française entre 1955 et 2005. Bon, on pourrait partir de plus haut, un baisse du nombre d'exploitations agricoles, un doublement du volume de la production, un agrandissement des surfaces. Je ne vous apprends rien. Et parallèlement à ça, sont apparues de nouvelles formes juridiques. Les GAEC en 62, les ERL en 85, et qui se sont, donc là j'ai pas repris, ah oui si, en 2005, 25% de l'ensemble des exploitations agricoles et 40% des exploitations dites professionnelles, donc ça c'est les catégories du ministère de l'Agriculture, ont une forme sociétaire, c'est-à-dire, et c'est de cela qu'un certain nombre d'observateurs, d'analystes en déduisent que désormais les exploitations agricoles sont des entreprises, des sociétés. Donc qu'est-ce que c'est qu'une société par rapport à une entreprise individuelle? C'est le fait que le capital de l'entreprise est dissocié du capital, du patrimoine de l'exploitant. Et donc on en déduirait une séparation entre l'entreprise et la famille. Sauf que toutes ces transformations que je viens d'énoncer ont eu lieu dans le cadre d'entreprises familiales. En 2000, donc ça c'est le recensement agricole, 8 agriculteurs de moins de 40 ans sur 10 sont apparentés à l'exploitant qu'ils ont remplacé. Donc j'ai pris que les jeunes pour qu'on puisse pas dire ça ne concerne que les vieilles générations, parce que quand on prend le groupe socio-professionnel des agriculteurs, il y a effectivement un nombre de vieux qui pèsent lourdement. Mais là, si on prend que les jeunes, 8 sur 10 sont apparentés à l'exploitant qu'ils ont remplacé. Si maintenant on prend ceux qui se sont installés sur une exploitation sans aucun lien de parenté avec leurs prédécesseurs, ceux qui, dans le jargon des chambres d'agriculture, ce sont les installations hors cadre familial. Si on prend entre 2003 et 2005 les 15% d'agriculteurs donc installés hors cadre familial, la moitié avaient des parents eux-mêmes agriculteurs. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça décrit autrement l'agrandissement des exploitations agricoles, c'est-à-dire le fait que il y a un certain nombre d'exploitations qui ne sont pas reprises par un fils, un neveu, enfin quelqu'un dans la famille, et un agriculteur dans le coin. Alors j'ai en tête une enquête faite sur les céréaliers du Châtillonnais. Énorme exploitation. Le bureau, en fait, il y avait 4 fils. Le bureau de... C'était un open space avec les 4 fils et le père, grand comme cette salle ici. Et dans un coin du bureau, il y avait une liste de toutes les exploitations de la région qui n'allaient pas être prises. Et ces listes étaient cochées et ces exploits... Enfin, c'était un GAEC. Ce GAEC se positionnait à chaque fois pour racheter les terres. Donc voilà ce que ça décrit en fait. La moitié avait des parents eux-mêmes agriculteurs. Ce sont des exploitations familiales qui s'agrandissent en rachetant ou en prenant en fermage les exploitations des voisins. Et enfin, en 2000, 93% des sociétés civiles agricoles étaient exclusivement familiales. Donc ça veut dire que tous les associés sont apparentés entre eux. Et seulement 5% d'entre elles réunissaient des associés dépourvus de liens de parenté. Donc il me semble que ça sont des raisons importantes. Ça veut donc dire que ces sociétés agricoles ne mettent pas fin à l'entreprise familiale. Alors là, par contre, je vais m'attarder. Donc à Cognac, j'avais donc affaire à des entreprises familiales. Maintenant, ce dont je voudrais rendre compte, c'est de ce qui au début était un sentiment, une impression, et puis qu'il a fallu que que je formalise au cours de mon travail de thèse, c'est le fait que y avait des riches et il y avait des pauvres. Donc c'est pour ça que j'aime bien le titre de votre séminaire. Alors il y avait des riches, il y avait des pauvres. Quand on circule comme ça à Cognac, d'une exploitation à une autre, concrètement, ça voulait dire que parfois je me retrouvais dans des châteaux ou dans de grandes maisons bourgeoises avec un mobilier visiblement très ancien et très coûteux, précieux. Alors à midi, on a parlé des fourchettes en argent, donc voilà un peu l'ambiance. Et puis parfois, je me retrouvais dans des petites fermes. Boueuse, ou la table en formica et la cuisine des années 60 et puis alors là je décris les logements, mais je pourrais décrire aussi des styles vestimentaires. Donc ça allait de Ralph Lauren et Lacoste à l'entretien en bottes en tenue de travail, donc ça c'était de l'ordre de l'impression. Et le problème que je me suis posé, c'est qu'est-ce que j'allais en faire de ça? Je voyais qu'il y avait une hétérogénéité sociale très grande parmi ces entreprises, qui étaient toutes des entreprises familiales, en revanche. Donc ça m'a mis beaucoup de temps d'affronter ce problème. Donc la première manière de l'affronter a été d'écrire les exploitations. Taille de l'exploitation, situation plus ou moins proche de Cognac. Donc, c'est hiérarchisé à Cognac. En gros, une exploitation viticole en grande champagne, ça produit de l'eau de vie qui a une valeur plus grande que de l'eau de vie produite en fin bois ou encore plus des bons bois. Le Cognac de l'île de Ré, par exemple, ne vaut pas grand-chose. En tout cas, vu de Cognac. Bon, donc il y avait des histoires de situation dans l'espace. Il y avait des histoires de taille. Avoir 6 hectares de vigne et avoir 72 hectares de vigne, c'est pas pareil. Il y avait aussi des histoires de mode de commercialisation, selon qu'on est livreur de vin, c'est-à-dire qu'on que sa production est vinifiée puis immédiatement vendue aux grandes maisons qui, elles, s'occupent ensuite de le distiller et de le stocker, eh bien, ça rapporte moins que une entreprise qui est bouilleur de cru. Bouilleur de cru, ça veut dire qu'il distille, qu'on distille à domicile, et que du coup, ça permet de stocker et de vendre ensuite l'eau de vie à un prix beaucoup plus intéressant, et puis aussi à un moment éventuellement beaucoup plus intéressant. Donc voilà, il y avait tout un tas de comme ça de critères liés à l'exploitation au patrimoine professionnel, on pourrait dire. Sauf que j'ai une expérience de terrain très concrète qui m'a fait prendre conscience qu'il y avait aussi autre chose. Je me rends un jour dans une exploitation dont on me dit que c'est une famille, une grande famille de cognac, importante, historique, ancrée localement, de la bourgeoisie. J'arrive dans cette exploitation. Effectivement, la maison est une magnifique maison avec des meubles anciens. Donc, j'ai vraiment tous les signes de la bourgeoisie. Et quand on me décrit l'exploitation, c'est une exploitation moyenne, pas terrible, qui en plus, donc moi mon enquête c'est fin des années 90, début des années 2000, le cognac se vend très mal, donc il va mal. Donc je me dis, donc il y avait une sorte de hiatus là, qu'il y avait quelque chose qui collait pas. Et il se trouve donc cette exploitation était, et c'est rare, c'était une chef d'exploitation, c'était une femme. Donc j'avais négocié l'entretien avec elle. Et pendant tout l'entretien, son mari, puisque cette dame était mariée, son mari était devenu salarié sur l'exploitation de cette dame. Ce mari était un ancien banquier. Et c'est très important. Le monsieur, j'avais pas négocié l'entretien avec lui, donc lui était dans les autres pièces de la maison. Mais parfois, ça c'est une expérience assez classique aussi en ethnographie, on sent qu'il y a des gens qui ont envie de vous parler, donc ils tournaient un peu autour. Et puis, il a profité que la dame était occupée à autre chose. Donc, les entretiens, c'est long, hein. C'est genre 2 heures, 3 heures. Enfin, on s'installe, hein. Enfin, je m'installe. Je m'installais. Et là, le monsieur profite d'une interruption et du fait que sa femme s'en va pour venir me voir. Et là, il commence à me parler. Et ce qui était extraordinaire, c'était que comme ce monsieur était banquier, donc je lui disais, mais c'est quand même très étonnant. C'est vraiment un cas très atypique, hein. Un monsieur qui vient travailler sur l'exploitation de sa femme. J'en ai pas croisé d'autres comme ça. Et ce monsieur, parce qu'il était banquier, commence à me dire, ah oui, mais l'exploitation, c'est qu'une partie du travail. On gère un parc immobilier et on gère aussi. Donc il commence à me parler de patrimoine, de portefeuille financier d'actions et d'obligations qui sont dans la famille depuis longtemps et que lui, en fait, en tant que banquier, considère comme du travail. Et c'est là que ça a été extraordinaire, c'est que ce monsieur a commencé comme ça à me parler de tout un pan dont la dame n'avait absolument pas parlé. Et quand cette femme est revenue, eh bien, j'ai compris que elle n'aurait pas souhaité en parler parce que pour elle, c'était privé, c'était les affaires privées. Alors que pour lui, parce qu'il était banquier, ça faisait partie du travail que, bon. Et donc là, j'ai commencé un peu à m'intéresser à ça aussi. C'est-à-dire au fait que pour une bourgeoisie viticole, il n'y a pas seulement l'exploitation, mais il y a aussi un patrimoine économique composé de biens immobiliers et financiers. Et en fait, j'avais pas voulu le voir, ce qui était absolument sous mes yeux, puisque à l'époque j'habitais à Jarnac, et en fait, les quelques maisons en location, elles appartenaient toutes à des familles de viticulteurs. Donc voilà. Donc j'avais pas voulu voir ça. Donc du coup, ça m'a amené à creuser cette affaire-là et à décrire donc cette bourgeoisie viticole d'affaires qui cumule des capitaux économiques. Donc encore une fois, derrière ce économique, il n'y a pas seulement le patrimoine de l'exploitation professionnelle, mais il y a aussi un patrimoine économique diversifié. Et j'ai compris bien après que ce patrimoine économique diversifié, il était extrêmement important, y compris pour l'exploitation. Parce que l'économie du cognac, donc c'était, je l'ai dit très rapidement tout à l'heure, c'est une économie en dents de scie. Alors dents de scie, là aussi, expression indigène, on me disait, ah non, mais le cognac c'est en dents de scie, ça se retourne très brutalement. Et puis, donc on me disait ça en 97, et alors je demandais, mais c'est quand la dernière période où ça a été bien? Ah ben c'est 88, période euphorique 88. Et puis 97, 98, 99, 2000, tout ça, crise de surproduction, tout, enfin, en gros, tout va mal. Les grandes maisons diminuent leurs achats à leurs fournisseurs, les prix baissent. Je me disais, mais c'est quoi leur histoire de dents de scie ? C'est pas possible. Et puis, en fait, ils ont bien raison, puisqu'en 2000, quand j'ai arrêté mon terrain, 2006-2007, à nouveau, comme ils disent, période euphorique, c'est-à-dire période où les prix montent, le prix du foncier monte, le prix de l'achat d'eau de vie monte, les exportations de cognac montent. Alors, au milieu des années 2000, c'était vers les États-Unis. À la fin des années 80, c'était plutôt un marché asiatique. Et en fait, tenir comme ça 10-15 ans de ces grandes périodes de surproduction où le cognac se vend pas ou se vend mal, eh bien, avoir des revenus immobiliers ou financiers, évidemment que ça permet de tenir. Et donc, ça m'a permis aussi de comprendre pourquoi l'arrachage, il y avait des politiques d'arrachage comme ça toute la fin des années 90, début des années 2000, il y avait des politiques d'arrachage où on incitait les viticulteurs à arracher. Et en fait, ça marchait jamais. Ils voulaient jamais arracher parce que arracher, c'est vraiment lâcher, en fait. C'est alors que ceux qui peuvent tenir, c'est-à-dire ceux qui ont un patrimoine économique diversifié, ils vont tenir toutes ces mauvaises années et ils vont, comme ils disent, vider leur chai. Alors pour ça, ça suppose aussi de distiller soi-même et de stocker soi-même. Donc ils vont vider leur chai au moment où le marché se retourne. Donc on voit que ce patrimoine économique diversifié, il a aussi du sens pour l'activité viticole. Alors, si on voulait être complet, mais là aujourd'hui, je vais parler surtout du patrimoine économique. Il y a aussi des capitaux culturels. Donc, dans la bourgeoisie viticole d'affaires, on va à l'école longtemps. Enfin, on fréquente l'enseignement supérieur depuis longtemps, depuis plusieurs générations, et on investit aussi. On investit aussi là-dedans, dans l'école. Y compris pour les éventuels repreneurs de l'exploitation qui sont diplômés d'écoles de commerce ou diplômés en droit ou on fait des langues aussi parce que si on veut faire une activité de vente directe, et ben parler anglais c'est indispensable, etc. Et puis, je passe sur la suite, mais on a aussi un réseau local on connaît bien les négociants, on connaît bien les cadres chez les grands négociants, on va dans les mêmes, on met ses enfants dans les mêmes écoles privées, on va dans les mêmes clubs sportifs de golf ou de, ce qui permet d'avoir un ancrage local très très important qui fait que, ben, comme dans cette famille, quand j'y suis allée, on m'a dit, ah ben là, t'as une grande famille de cognac. Bon, donc là, j'ai décrit le haut. Maintenant, j'essaye de décrire le bas. En bas, j'ai ce que j'ai appelé, je les ai appelés les petits livreurs de vin, parce que précisément eux ne distillent pas, donc ne stockent pas, donc ne peuvent pas bénéficier, ne peuvent pas spéculer sur les retournements du marché du cognac, comme je viens de l'indiquer tout à l'heure. Ils doivent vendre chaque année en vin leur vin qui est distillé par les grands négociants. Et donc, du coup, eux sont extrêmement tributaires des retournements du marché, de la baisse des prix, de la baisse des achats. Et donc, leur unique patrimoine, c'est l'exploitation familiale, qui est en général aussi beaucoup plus petite. Et dans la période que moi, j'ai étudiée, ces petits livreurs de vin ont du mal à joindre les deux bouts, ont de grandes difficultés financières. Un certain nombre d'entre eux sont ouvriers viticoles, agricoles dans les exploitations autour, et leurs conditions de vie sont assez proches de la condition ouvrière. Mais néanmoins, ils veulent transmettre l'exploitation à leurs enfants. Et ça, c'est frappant. Leurs conditions de vie sont proches de la condition ouvrière, mais néanmoins, cette petite exploitation, dans la crise de la société salariale qu'on vit, là, le fait que si leurs enfants travaillaient, ben, qu'est-ce qu'ils seraient ? Ils seraient peut-être ouvriers, employés, en tout cas, ils seraient peut-être précaires au chômage. Eh bien, du coup, on s'accroche quand même à l'exploitation. Et on essaye tout de même de la transmettre. Et puis, entre les deux, un continuum de petits producteurs indépendants, engagés avant tout dans le maintien de leur exploitation familiale, mais pas dépourvus d'autres capitaux. Alors là, bon, c'est un peu une solution de facilité. J'arrive à décrire les deux extrémums. Je pense qu'en fait, c'est extrêmement hétérogène et varié entre les deux. Les agriculteurs fréquentent l'école désormais. Ils vont, pour bénéficier de la DGA, il faut avoir au moins le bac. Parfois, certains d'entre eux ont aussi le BTS, donc des stratégies d'attente du bon moment de reprendre l'entreprise familiale. S'ils peuvent, ils vont investir un peu dans l'immobilier pour faciliter les partages patrimoniaux, je vais y revenir, ou bien pour avoir un petit revenu mensuel. Donc voilà, il y a un continuum entre les deux. Bon, alors la deuxième section, je l'ai intitulée « Les arrangements de famille ». Là, je vais vous décrire, mais vraiment à très gros traits, ce qui a été le cœur de mon travail dans le livre. C'est-à-dire le fait d'avoir circulé du point de vue des parents et du point de vue des enfants, mais je vais aujourd'hui me centrer davantage sur le patrimoine. Donc, ce qui est frappant, tous groupes sociaux confondus, c'est que les parents exploitants veulent transmettre leur exploitation. Parce que ne pas transmettre, ça serait avoir travaillé pour rien. Donc, dans la durée, les 8 ans d'enquête que j'ai faites, je me suis aussi intéressée à des cas compliqués, des cas où ça marchait pas très bien, des cas où des parents avaient cru qu'un de leurs enfants, un de leurs fils allait reprendre et puis finalement il n'a pas repris. Quand on a cru que son enfant allait reprendre et qu'il ne reprend pas, c'est extrêmement violent, c'est extrêmement douloureux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire transmettre son exploitation? Ça veut dire transmettre au moins trois choses. Transmettre un patrimoine productif, transmettre son métier et transmettre un statut de chef d'entreprise, de chef d'exploitation. Et en même temps, donc j'ai dans le livre, j'ai détaillé par le menu ce que c'était que toutes ces transmissions. Ce qui est frappant, c'est que alors même qu'on est vraiment dans la transmission lourde, reprendre une exploitation à l'inverse, ça veut dire que son destin social dépend du patrimoine de ses parents, c'est faire le même métier que ses parents, c'est être chef d'exploitation comme ses parents, c'est vivre au même endroit que ses parents. Là, je prends le point de vue des jeunes viticulteurs, c'est vivre au même endroit que ses parents, c'est travailler avec eux concrètement. Et pourtant, alors qu'il y a toutes ces transmissions, les parents exploitants ne cessent de dire on ne peut pas leur imposer ça, on ne veut pas les conditionner, on ne veut pas leur imposer de reprendre, il faut ouvrir les horizons, ils reprennent, il y en a un qui me disait il faut qu'ils reprennent avec cœur, c'est-à-dire pas à contre-cœur. À l'inverse, du point de vue, donc là c'est les jeunes du point de vue des jeunes viticulteurs, reprendre, c'est bien être un maillon de la chaîne. Alors là aussi, j'ai pas mal creusé cette affaire-là. Il y a l'idée d'un devoir moral de la reprise de la part de ces jeunes viticulteurs. Et pourtant, comme leurs parents qui disent on ne peut pas imposer un destin social, les jeunes viticulteurs disent je suis un chef d'entreprise, je suis un entrepreneur. Alors, cette chose-là ne vient pas de nulle part. Elle vient de l'école et elle vient de la profession agricole. Donc, ça fait partie du travail de thèse que j'ai fait. J'ai fait une semaine de stage d'installation. J'ai fait une semaine d'observation participante d'un stage d'installation de ces jeunes viticulteurs. Et on ne cesse de leur enseigner que ça ne suffit pas de reprendre l'exploitation de ses parents, qu'il faut être un créateur d'entreprise. Alors là, dans la thèse, j'ai reproduit les schémas projet professionnel. Donc, c'est tout le langage du projet, de la création d'entreprise, etc. Et donc, il y a cette sorte de paradoxe. À la fois, ils reprennent. Et en même temps, ils entreprennent, ils se perçoivent comme innovants, comme rompant par rapport à leurs parents, comme il faut qu'ils fassent leur place, il faut qu'ils fassent leur preuve par rapport à leurs parents. Donc ça, c'est toute une dimension du livre sur laquelle je passe ici rapidement. C'est ce registre de la vocation. C'est que je fais ça par vocation. J'ai toujours voulu faire ça, une vocation personnelle, alors même que cette vocation personnelle, elle est entièrement travaillée, en fait, par les transmissions familiales. Alors, je le dis en passant, mais ça a quand même son importance. Tout le monde n'a pas la vocation de façon égale. C'est une affaire de garçon. Dès qu'il y a un garçon dans la fratrie, ça disqualifie immédiatement les filles. Ah bah non, les filles, elles sont pas intéressées. Mes sœurs, elles n'ont jamais été intéressées. Elles savent même pas où sont les pieds de vigne, etc. Donc voilà, ça c'est l'essentiel du travail que j'ai fait, c'est travailler sur cette question de transmission et de sélection de repreneurs. Qu'est-ce qui fait que ça va être un frère plutôt qu'un autre qui va reprendre l'exploitation et comment ça se déroule? Ce à quoi je voulais arriver maintenant, c'est le fait que ces transmissions varient, les conditions de ces transmissions varient selon les groupes sociaux. Et en même temps, j'ai pas très, je voudrais pas trop vous parler du reste, mais c'est des dimensions importantes, la question de la place de l'école, mais j'en parle pas aujourd'hui. La question aussi de comment on trouve sa place dans l'entreprise familiale, je voudrais ne pas en parler aujourd'hui. Ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est des arrangements de famille. Les arrangements de famille, c'est le terme pour désigner les transmissions patrimoniales. Et ce que je vais essayer de vous montrer, et là pour le coup je vais insister un peu plus, c'est que selon qu'on est dans la bourgeoisie viticole ou qu'on est un petit livreur de vin, ces transmissions patrimoniales ne vont pas se dérouler de la même façon, ne vont pas poser les mêmes problèmes. Donc vous l'avez compris, le patrimoine familial, soit il est en bas de la hiérarchie sociale, c'est uniquement l'exploitation, et en haut de la hiérarchie sociale, il va être d'abord plus gros. Et il va être diversifié en biens immobiliers et financiers. Et quand on saute, et par ailleurs, il y a une deuxième variable dont là je n'ai pas parlé du tout, qui est que deviennent les frères et sœurs du repreneur. Donc j'ai fait un tableau très simple. Soit ces frères et sœurs du repreneur appartiennent aux classes populaires salariées ou indépendantes, soit ils sont en ascension sociale, classe moyenne et supérieure salariée. Et vous allez voir que ce qui se joue dans les arrangements de famille dépend à la fois de la tête du patrimoine à transmettre et non seulement du repreneur, mais aussi de ses frères et sœurs. Alors je vais commencer, je vais vous détailler ces quatre cases, à chaque fois en développant un cas précis. Je vais commencer par la famille No. Qui est en bas à gauche. Alors la famille No, c'est une exploitation moyenne, 17 hectares de vigne, 12 hectares de terre. Il y a de la distillation et des contrats en eau de vie avec une grande maison. C'est une exploitation moyenne, mais il n'y a pas d'autre patrimoine que l'exploitation. Surtout, ce qui est intéressant dans cette famille, il y a deux garçons et deux filles. C'est le deuxième fils qui va reprendre l'exploitation. Le premier fils a fait un doctorat. En physique, bon, il y a un intitulé plus précis que là, j'ai oublié, mais c'est pas très grave. Donc, il a fait un doctorat en physique, investissement très très fort dans les études, et il a deux sœurs, le repreneur, plus jeunes, qui elles ont fait des études moins longues, mais toutes néanmoins des études supérieures. Et ce qui est intéressant dans cette famille, c'est que tous les frères et sœurs sont en ascension sociale. Du fait de leur investissement massif dans l'école, ils sont en ascension sociale par rapport à leurs parents. Et du coup, dans cette famille, on a une situation qui est un peu à front renversé par rapport à ce à quoi on s'attendrait. En gros, dans les arrangements de famille, on s'attend à ce que le repreneur, il ait envie de maintenir la viabilité de son exploitation, donc un dédommagement minimal de ses frères et sœurs. Donc on s'attend à ce que le repreneur soit celui qui veuille arranger l'arrangement patrimonial en sa faveur. Alors que là, c'est l'inverse. On a des frères et sœurs qui disent « Mais non, mais c'est très bien que toi, tu prennes l'exploitation. D'ailleurs, nous, on renonce à notre part. On n'est pas pressé. Prends tout ton temps. Il n'y a pas de problème. On te soutient. Pour nous, c'est très important qu'il y ait quelqu'un qui reprenne l'exploitation et puis c'est pas nous. Nous, ça nous intéresse pas le dénommagement. Et donc voilà. Donc il n'y a pas de conflit. Par contre, je peux vous dire que le repreneur, il se sent un peu coupable. Il sent, c'est quelque chose de très classique quand on a lu Marcel Mauss. Il se sent redevable en fait. Il se sent coupable et redevable vis-à-vis de ce cadeau immense que lui font ses frères et sœurs. Et donc l'équité entre germains. Vous voyez qu'elle est, elle est pas respectée. C'est-à-dire que dans les arrangements patrimoniaux, les frères et sœurs qui ont fait des études et occupent des positions salariées en ascension sociale, ils vont pas avoir leur part du gâteau à égalité avec leurs frères. Mais c'est pas conflictuel. Bon, autre cas pas conflictuel, on va démarrer comme ça. Les Lamy. Donc là, on est dans la bourgeoisie, grande bourgeoisie viticole de Cognac. Très important patrimoine familial, diversifié, mais aussi un énorme patrimoine foncier, beaucoup de vignes, deux frères et une sœur. Et la sœur, les deux frères vont s'installer comme viticulteurs. C'est extrêmement rare, en fait, une famille qui arrive à installer deux enfants. Ça suppose vraiment un patrimoine productif très important pour installer deux enfants sur l'exploitation. Et là, c'est le cas des deux fils. Et pas de problème non plus, parce que la fille va devenir libraire. Et ses parents vont organiser, donc ça se passe, ces arrangements de famille, oui, je ne l'ai pas dit, mais la forme juridique de ces arrangements de famille, ce sont des donations entre vifs. Hein. Les parents organisent les arrangements de telle sorte que la fille, il lui achète son fonds de librairie, il l'installe elle également. Donc il la dédommage très rapidement. Il n'y a pas de conflit et chacun a sa part. Et là, on voit l'intérêt d'avoir un gros patrimoine diversifié qui permet de mobiliser une somme d'argent à un moment donné pour l'équi-répartition du patrimoine entre les enfants. Donc voilà deux cas non conflictuels. J'en arrive au cas conflictuel. Je vais commencer par le cas Durand. Alors le cas Durand, c'est une petite exploitation excentrée dans la région de Cognac. Et Armand Durand, oui, tous les noms que je donne, ce ne sont pas les noms des personnes, hein, ça a été anonymisé. Donc Armand Durand a toute sa vie oscillé entre exploitant, propriétaire exploitant et ouvrier agricole. Des conditions de vie proches de la condition ouvrière, et il n'y a que cette petite exploitation. Ce monsieur a des frères et sœurs qui sont tous, qui appartiennent aux classes populaires salariées. Ils sont tous employés, ouvriers, certains sont au chômage. Il a une sœur qui est assez précaire, qui a un emploi à temps partiel qui lui rapporte vraiment pas beaucoup. Donc voilà, on est dans cet univers social-là. Et Armand Durand n'arrive et pour le moment locataire de, enfin il a une partie de son exploitation en son nom qu'il a acheté en viager et une partie de l'exploitation, une grande partie de l'exploitation, c'est l'exploitation de ses parents. Il est locataire de ses parents. Mais comme l'exploitation ne rapporte rien, il ne verse pas de loyer à ses parents. Donc ça déjà c'est un problème. Enfin, les parents réclament et lui ne verse pas. Donc là encore, hein, culpabilité, conflit générationnel assez fort avec des petites remarques de la grand-mère qui dit « je peux pas aller chez le dentiste », etc. À ses petits-enfants, les gens se parlent plus. Enfin, c'est très lourd hein, familialement. Et le problème, c'est le dédommagement des frères et sœurs. C'est sortir. Donc Armand Durand est locataire de ses parents. Les parents aimeraient organiser leurs arrangements, les arrangements de famille. Ce que aimerait Armand Durand, lui, c'est un GFA, c'est-à-dire que ses frères et sœurs restent associés pour la. C'est une forme de maintien de l'indivision, on pourrait dire, mais sous une forme sociétaire. Sauf que les frères et sœurs, ils veulent pas. Et notamment, il a une de ses sœurs qui a du mal à payer et rembourser le crédit de sa maison et qui, elle, aimerait avoir sa part, sa soulte immédiatement. Et donc. La situation est bloquée. Alors, elle est bloquée juridiquement. Donc ça, je l'ai écrit proprement dans le livre. Je vais essayer de vous le dire là. Mais elle est bloquée juridiquement parce qu'il a un bail à long terme. Donc, et comme aucun de ses frères et sœurs n'est lui-même viticulteur exploitant, on peut pas déloger Armand Durand de l'exploitation. Il y a une protection en fait juridique du fermier en place. Donc aucun de ses frères et sœurs ne peut le déloger et aucun de ses frères et sœurs ne peut exiger sa soulte. Et les parents, du coup, ne font rien. Donc il y a une situation de blocage qui dure en fait depuis des années, qui rend les relations familiales vraiment épouvantables et c'est bloqué. Et donc c'est très conflictuel. Dernière situation conflictuelle. À nouveau, un patrimoine familial, donc à nouveau la grande bourgeoisie, un gros patrimoine diversifié en biens immobiliers et financiers, sauf qu'il se trouve que l'exploitation, le siège de l'exploitation, c'est un château. Et donc ce château pèse quand même lourd dans le patrimoine familial, y compris même si on tient compte des autres types de biens qui pourraient servir à diviser, à séparer le patrimoine, le château pèse plus lourd. Là encore, on a des frères et sœurs qui font des études supérieures, qui sont donc là c'est à nouveau un cas avec quatre enfants, c'est un des garçons qui reprend, c'est le premier fils qui reprend. Non, il y a en fait deux filles d'abord, puis deux garçons, et c'est le premier des garçons qui reprend l'exploitation. Les deux filles sont bien mariées avec des cadres sup d'origine aristocratique dans la région parisienne, donc elles n'ont pas, enfin il n'y a pas d'enjeu, enfin elles sont. Voilà, enfin, la manière dont le frère le décrit, c'est qu'elles ont, elles ont pas de problème d'argent. L'autre frère est également une position de cadre supérieur dans une grande entreprise dans la région parisienne. Sauf que, contrairement à la famille No, c'est pas une ascension sociale aussi évidente. Et c'est là la complexité. C'est que dans le cas des No, il y a une ascension par les diplômes, par l'école et par le marché du travail salarié, les frères et sœurs ont vraiment une ascension sociale qui leur permet de dire bah non, mais c'est bien, toi tu gardes l'exploitation et c'est bon. Alors que là, on a aussi une exploitation qui a une grande valeur, ne serait-ce que le château. Et donc du coup, se pose la question, est-ce que c'est une charge ou bien est-ce que c'est un avantage que de reprendre l'exploitation? Et dans la famille, tout le monde n'a pas la même position. En gros, les frères et sœurs disent « Non, mais lui, le repreneur, n'a jamais rien fait à l'école. Et donc, il reprend l'exploitation parce que lui, il n'a jamais fait les efforts à l'école. Voilà. Et c'est pas normal qu'il soit avantagé dans les arrangements de famille. » Le repreneur, lui, dit quelque chose de très différent. Il dit « Mes frères et sœurs ont tous des positions très bien. Moi, je reste sur place. Je suis le seul à rester sur place. Du coup, je dois m'occuper de mes parents âgés qui habitent également sur place dans une autre aile du château. Hein, rassurez-vous, ils ont beaucoup d'espace, mais ils sont quand même au même endroit. Je vais m'occuper de mes parents. C'est une charge et donc c'est normal que je bénéficie de la quotité disponible. » Donc voilà, donc en gros, autour de la question est-ce que c'est une charge ou est-ce que c'est une chance de reprendre l'exploitation, se joue la transmission vont se dérouler ces arrangements de famille. Donc là aussi, c'est très conflictuel. Et les parents, dans ce cas-là, ont pris parti pour le repreneur puisqu'ils lui ont accordé la quotité disponible dans leurs arrangements. La suite de ce travail-là, focaliser sur les patrimoines comme une manière de positionner socialement les agriculteurs dans la France contemporaine, c'est une exploitation de l'enquête patrimoine 2003-2004 de l'INSEE, que je n'ai pas faite seule, mais avec des économistes, Caroline de Paoli, Bénédicte Gouraud, Muriel Roger, dont une partie se trouve à l'INRA, Muriel Roger et Bénédicte Gouraud. Et en gros, on a, à partir de cette idée-là, c'est-à-dire qu'il fallait raisonner non pas sur le patrimoine seulement professionnels des agriculteurs, mais sur leur patrimoine familial, on est allé regarder dans cette enquête de l'INSEE, qui est l'enquête patrimoine, qui décompose en fait le patrimoine en patrimoine professionnel, immobilier et financier, on est allé regarder comment se positionnaient les agriculteurs par rapport aux autres. Alors, par rapport aux autres, c'est qui ? Alors, donc, peut-être on va regarder la médiane, qui est sans doute le plus intéressant. Donc, les indépendants, de façon générale, ont des patrimoines beaucoup plus gros que les ménages indépendants, que l'ensemble des ménages, c'est-à-dire qui comprend les salariés. Donc ça, c'est ce qu'on peut lire dans les deux premières lignes. Mais si on regarde les agriculteurs, on voit que leurs patrimoines sont très élevés. La médiane de leur patrimoine global est très élevée, même plus élevée que celle des professions libérales. Alors, c'est pas vrai si on regarde la moyenne, mais sur la médiane, ça l'est. Et en fait, c'est lié à quoi ? C'est lié au premier quartile. C'est-à-dire le fait que les agriculteurs, y compris les petits, ont des patrimoines, ont des immobilisations de capitaux très très lourdes. Alors après, on a décomposé ça, on a regardé le patrimoine professionnel, le patrimoine financier, le patrimoine immobilier. Là encore, qu'est-ce qu'on voit ? Donc là, on compare maintenant les agriculteurs par rapport aux autres indépendants. Ben, on voit que leur patrimoine professionnel pèse lourd. Pèse très très lourd. Donc ça, c'est ce que je lis dans le premier tableau, sur la médiane et sur le Q1, c'est-à-dire le premier quartile. Ils ont des patrimoines professionnels très très lourds dans l'ensemble de leur patrimoine. Mais ils ont quand même aussi du patrimoine financier et du patrimoine immobilier. Alors moins que les autres du patrimoine immobilier, donc ça, on a essayé de réfléchir pourquoi. En fait, il y a deux raisons, il nous semble. C'est qu'il y a le fait que leur patrimoine immobilier, il est situé en zone rurale, donc ça peut valoir moins cher, puisque en fait, le principe de l'enquête patrimoine, c'est qu'on doit donner une valeur du patrimoine si on le vendait aujourd'hui, la valeur sur le marché de ce patrimoine. Donc, il y a cette première raison-là. Mais il me semble qu'il y a une autre raison, c'est que le patrimoine immobilier des agriculteurs est en partie inclus dans l'exploitation, c'est-à-dire qu'ils font basculer dans le patrimoine professionnel. Si, par exemple, une maison attachée au bâtiment d'exploitation, ça va être l'exploitation et non pas déclaré comme patrimoine immobilier. Et puis alors là, on a creusé un peu, on est allé regarder, on a classé les différents types d'indépendants selon leur patrimoine brut, donc par quartile. Et qu'est-ce qu'on constate ? C'est que contrairement aux autres indépendants, plus les agriculteurs sont riches, plus leur part de patrimoine professionnel est élevée. Donc ça, ça les distingue de tous les autres. Donc les autres logements, ça c'est assez classique, c'est le fait que plus ils sont riches, plus ils ont d'autres logements. Donc bon, ça c'est les économistes, ça ils connaissent bien, diversification du portefeuille, ça leur pose pas de problème. Donc voilà, par contre ce qui est plus intéressant, c'est le fait que leur patrimoine professionnel, plus ils sont riches, plus ils pèsent. Et donc là, je vous ai pas mis les tableaux, mais pourquoi est-ce qu'ils pèsent ? Parce que il y a le poids du foncier en fait, qui est beaucoup, qui est très lourd et qui est très lourd, y compris dans les quartiles les plus élevés. Bon, voilà une forme de. Je m'arrête là. Donc le problème de cette enquête patrimoine, quand même, je veux dire juste ça. Il y a deux problèmes et deux grandes limites à ce type d'approche. C'est que un, ça tient pas compte de l'endettement. Ce sont des patrimoines bruts, donc or, les agriculteurs sont endettés et sont plus endettés que les autres. Et deux, le gros problème de l'enquête patrimoine de l'INSEE, c'est qu'il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez d'indépendants et il n'y a pas assez d'agriculteurs en particulier. On a, là on peut le voir, hein, 187 agriculteurs, 187 ménages d'agriculteurs. Donc du coup, si on veut faire des exploitations statistiques un tout petit peu poussées, on se retrouve tout de suite coincé par le nombre de ménages agricoles. Voilà, je m'arrête là.